Easy Head pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure au fond de l'eau, je salue Mathilde. Salut Mathilde.
Salut.
Et me rejoindront ensuite Rémi et Aminata. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée présenté par Marin, notre stagiaire de la semaine, et bien sûr la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Mathilde, tous les jeudis, tu nous livres un flash d'infos dont nous aurions pu nous passer un flash au niveau de la mer.
Pas grand-chose chez nos amis les hommes cette semaine, c'est dommage, la première trouvaille était prometteuse. C'est l'affaire qui fascine, qui terrifie, sur laquelle on se questionne, le vol MH370, l'avion disparu. Ça fait donc 11 jours qu'il reste introuvable et les théories commencent à fuser dans tous les coins, notamment sur Internet où les plus ridicules, avouons-le, ont vu le jour. Alors outre le traditionnel enlèvement par des soucoupes volantes, on commence avec Courtney Love, la veuve de feu Kurt Cobain, qui a affirmé avoir trouvé des débris de l'avion. Pour enchaîner avec un kidnapping orchestré par le régime nord-coréen, afin de renforcer son arsenal militaire. On a trouvé aussi un bouclier d'invisibilité, une collision avec un satellite due à une éruption solaire qui aurait déréglé les systèmes de navigation du dit satellite, qui, donc, aurait décroché prématurément de son orbite pour tomber sur la Terre. Bon, d'accord. Sans compter la plus ridicule, comme le fait que le vol MH370 serait caché dans l'ombre d'un autre avion de ligne. En attendant d'en savoir plus, moi je voudrais presque croire Courtney Love. Vous pensez que votre chien vaut de l'or, vous pensez que 1000 ou 2000 euros c'est cher pour un chien, eh bien ces sommes sont ridicules, décidément c'est le mot du soir, comparé au prix qu'a déboursé un promoteur immobilier à une foire canine en Chine pour acquérir un mastif tibétain pour la modique somme de 12 millions de yuan, soit 1 400 000 euros. La raison de cette flambée des prix pour cette race, ils ont du sang de lion et sont le gratin des mâles reproducteurs au sein de la famille des mastifs. Pour le sang de lion, on en doute fortement et pour le reste, un bâtard fera très bien l'affaire pour terminer les restes du repas familial. Les collisions avec les animaux n'arrivent apparemment pas que sur la route. C'est ce que nous a démontré une récente collision entre un surfeur et un dauphin en Australie. Le jeune homme, âgé de 27 ans, se trouvait sur son bodyboard à Pawley Point, à environ 250 km au sud de Sydney. Il était sur une vague, un dauphin a surgi et l'a heurté dans la région pelvienne, autrement dit le bassin, autrement dit les parties sensibles du monsieur, a expliqué un responsable des secours de Nouvelle-Galles du Sud. L'impact a été suffisamment violent pour déchirer la combinaison du patient, a-t-il ajouté. La victime est heureusement parvenue à regagner seule la plage avant d'être héliportée vers un hôpital de Sydney. Quant au dauphin, son sort n'est pas connu. Courage Flipper, on milite pour qu'il n'y ait pas de poursuite.
Merci Mathilde pour ces infos inutiles. Et à jeudi prochain. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. Voilà la première phrase du Capital de Karl Marx. Un capital monté par Sylvain Creusevaux et joué depuis mardi au Quai. Une création mondiale gardée bien secrète jusqu'à mardi soir et j'ajouterai même qu'elle restera mystérieuse puisque la troupe de Sylvain Creusevaux livre chaque soir un spectacle différent. La durée varie chaque soir et le texte aussi sans doute puisqu'on flirte ici avec l'impro. Bref, nous ne consacrerons pas ce sous-marin à la pièce de théâtre. De toute façon, Sylvain Creusevaux refuse de parler aux médias. Mais nous avons saisi cette occasion pour questionner l'actualité du capital et plus largement du marxisme et encore plus largement finalement du communisme. Bonsoir Margarida Santos Valerio.
Bonsoir.
Vous faites partie de l'Union des étudiants communistes à Angers qui a organisé le mois dernier la semaine de la pensée marxiste. En face de vous, Valentin Brouillard-Dusson. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien responsable départemental des jeunes communistes et je le précise à nos auditeurs qui ne voient pas votre écharpe Parme que vous faites partie également de la liste de Frédéric Béatz. À vos côtés, nous recevons également Jean-Jacques Thur. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire et de géographie à la retraite. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment aux éditions L'Armatan et vous avez donné une série de conférences à l'Institut municipal à l'automne sur la géopolitique des utopies, dont une intitulée « Du rêve communiste à la réalité soviétique ». Et enfin, Rémi, notre chroniqueur écho du jeudi, va co-animer cette discussion avec moi. Salut Rémi.
Bonjour.
Nous avions également invité Karl Marx, mais il n'était pas disponible. Alors, peut-être qu'on peut dire quelques mots d'abord sur la théorie marxiste. J'ai personnellement pas lu Marx, pour tout vous dire. J'ai tenté dans un premier temps de comprendre, grâce à notre meilleur ami à tous, Wikipédia. Puis, ne comprenant toujours pas tout, et après avoir tapé Marx expliqué à ma fille sur Google, j'ai découvert l'encyclopédie pour enfants Wikidia, qui résume le marxisme comme suit. Selon le marxisme, l'histoire se résume à la lutte des classes. J'appelle donc Rémi à l'aide. Rémi, tu voulais dégager 4 points sur le marxisme, je crois.
Oui, en gros, si j'ai bien compris, on a d'abord l'extorsion du surtravail. Les ouvriers produisent par leurs efforts de la valeur ajoutée, mais ils ne perçoivent pas l'intégralité de cette richesse par leur salaire. Une part de la richesse qu'ils créent est captée par la classe bourgeoise, par les rentiers qui se voient recevoir des dividendes régulièrement alors même qu'ils ne participent pas à la production. Ensuite vient la méthode de Marx, le matérialisme historique. On explique le changement social par les conditions matérielles dont disposent les individus. En observant leur niveau de vie et en le comparant avec d'autres, ces individus se forgent une conscience de classe. De là peut se développer la lutte des classes qui explique l'évolution des sociétés. En effet, un mode de production bien spécifique définit chaque société. Nous sommes passés d'un mode de production esclavagiste dans l'Antiquité romaine à un mode féodaliste au Moyen-Âge, les seigneurs protègent les serfs qui travaillent pour lui, puis à un mode de production capitaliste, la classe bourgeoise contre la classe ouvrière. Le capitalisme est lui aussi voué à disparaître puisque les capitalistes, en remplaçant systématiquement des travailleurs qu'il faut payer par des machines, se voient par là même contraints dans sa capacité, se voient par là même contraints dans leur capacité à prélever du surtravail ouvrier. Le profit tend à se réduire à zéro, le capitalisme ne peut pas survivre à une telle contradiction, la révolution est donc inéluctable, à moins de trouver d'autres moyens de capter le surtravail ouvrier. Rapidement, Jean-Jacques Thur, est-ce que j'ai oublié des éléments ?
Important, des éléments, évidemment qu'on oublie des éléments. Mais...
Vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire que le marxisme se fonde effectivement sur cette vision de la lutte des classes qui serait le moteur, enfin qui est le moteur de l'histoire, et qu'effectivement, globaliser un peu tout ce que vous avez dit, l'idée de Marx, c'est que dans toute société, il y a toujours une minorité dominante et une majorité dominée. Et toutes les grandes phases révolutionnaires que l'histoire a connues ont consisté à une partie de la majorité dominée à prendre le pouvoir au détriment de la minorité dominante, mais ensuite à devenir à son tour une minorité dominante, mais un peu plus étoffée, par rapport à une majorité qui reste dominée. D'où, comme vous disiez, dans l'Antiquité, l'esclavage, il y avait quelques pourcents de gens qui étaient suffisamment riches ou puissants pour avoir des esclaves, etc. Bon. Seulement, Marx dit à son époque, parce que le marxisme, on en parle encore aujourd'hui, mais il faut bien se souvenir que c'est une idéologie qui est née au milieu du 19e siècle, et ça n'est, c'est important de le savoir, de le remettre en perspective. Donc Marx dit, la prochaine révolution, elle ne se fera pas par une partie de la majorité dominée, puisque cette majorité dominée, c'est le prolétariat qui est exploité par la bourgeoisie. Bon, Marx peut dire cela parfaitement à son époque, même si on sait très bien que dans le prolétariat, il y a des nuances, des niveaux, etc. Puisque en allemand, Marx était allemand lui-même, on parle de Lumpenprolétariat, c'est-à-dire un sous-prolétariat qui est encore plus exploité, et tellement exploité qu'il est complètement aliéné, qu'il ne sait même pas dans quelle situation il se trouve. Donc, la nécessité pour Marx, c'est la prise de conscience. Il faut que les prolétaires prennent conscience qu'ils sont exploités, etc. Bon. De nos jours, il y a une chose qui a beaucoup changé depuis Marx, n'en déplaise aux uns et aux autres, c'est qu'il y a eu le développement de ce qu'on appelle les classes moyennes. Et que lorsqu'on utilise, dans un sens qui était tout à fait valable au XIXe siècle, de nos jours des expressions comme bourgeoisie et prolétariat, je dis pas que ça fait rigoler, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on pourrait qualifier de grands bourgeois par leur mode de vie, par le fait qu'ils gagnent des mille et des cents sans trop se fatiguer, etc. Et inversement, qu'il y a des gens qu'on appellera plutôt maintenant exclus, marginaux, etc., qui ne survivraient pas s'il n'y avait pas un peu de secours donné par des associations, etc. Mais la grande majorité des gens, je parle de nos pays, occidentaux, la grande majorité des gens, si vous leur dites « est-ce que vous êtes un bourgeois ?» N'exagérez pas, le voisin qui a la villa quatre fois plus grande que moi et qui part en vacances tous les deux mois, etc., lui c'est un bourgeois, moi non. Bon, est-ce que vous êtes un prolétaire ? Ah ben non, j'espère bien que non, parce que je veux quand même pas vivre comme un tel ou un tel. Bon, donc il y a cette première idée. Deuxième idée, le marxisme, il n'est pas né sur une table rase. Le marxisme, il s'est défini aussi comme un matérialisme scientifique, comme une doctrine scientifique, par opposition au socialisme utopique. Saint-Simon, Fourier, Proudhon qui a un peu viré vers l'anarchisme après, Robert Owen et quelques autres. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on fait souvent l'erreur. Ah oui, alors à partir du moment où Marx et Engels, qu'il ne faut pas oublier, parce que s'il n'y avait pas eu Engels, il n'y aurait pas eu Marx. Parce que Marx, il a bossé toute sa vie, il a écrit ses bouquins. Hein, il s'est marié, il a eu 7 enfants, il y en a 4 qui sont morts en bas âge, dont son petit garçon, hein, il en a beaucoup souffert, mais il n'a survécu que parce que Engels payait. C'est Engels qui a financé Marx. Et donc, j'en termine, la grande idée à ce moment-là, c'était que il fallait absolument que le peuple se réveille, et pour que le peuple se réveille, il fallait créer une organisation. Et une des choses dont on parlera tout à l'heure peut-être, c'est pour ça que j'ai parlé d'utopie, c'est que le marxisme lui-même finit par devenir une utopie lorsqu'il dit que le prolétariat va prendre le pouvoir, il va donc établir sa dictature. Pour établir une dictature, il y aura donc des forces d'État, des forces coercitives, et il y aura après, peu à peu, le dépérissement de l'État. Or, on a bien vu dans les pays où le marxisme a été présenté comme l'idéologie dominante, qu'on a toujours eu ce qu'on a appelé en russe des nomenklatura, hein, c'est-à-dire des minorités qui se sont mises à dominer.
On y reviendra tout à l'heure, après, Jean-Jacques, hein, oui. Thur. Pour revenir à nos deux autres invités, comment est-ce que vous en êtes arrivé, vous, à la théorie marxiste et plus largement après au communisme ? Margarida Santos Valerio, pour commencer.
Ça vient d'une histoire personnelle. Je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans avec mes parents. Donc on venait du Portugal. Et je les ai vus travailler donc toute mon enfance, mon adolescence, très difficilement pour au final ne pas avoir grand-chose. Donc j'ai pris très tôt conscience de l'existence des classes. Et donc très tôt, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et après, donc j'ai eu mon bac et j'ai travaillé quelques années dans le commerce. Et là, j'ai vraiment pris conscience que je vendais ma force de travail. J'ai pris conscience de l'aliénation qui était faite entre les salariés basée sur la concurrence entre nous. Et je pouvais plus accepter de vivre dans cette société sans vouloir militer pour la transformer, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis rapprochée des communistes et qu'aujourd'hui, je milite parmi eux.
Valentin Brouillard-Dusson, votre premier contact avec cette théorie ?
Alors, moi, je suis pas un enfant du parti, comme on dit. J'ai pas de communiste dans ma famille avant mon arrière-grand-père, qui était dans les brigades internationales et qui est mort en Espagne en 1936. C'est quand j'ai commencé... Donc, moi, je suis ce que j'appelle la génération 21 avril 2002, c'est-à-dire qu'on a connu Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Moi, j'avais 15 ans, donc j'ai pas voté, mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc qui se passait bizarre dans mon pays. Et de fil en aiguille, je suis commencé à m'intéresser à la politique, à m'impliquer avec cette idée de lutte contre les injustices, lutte contre l'extrême droite et tout ça. Et en arrivant à l'université, donc j'ai commencé par un engagement syndical, étudiant. Et donc je suis arrivé à l'université l'année du CPE, et après la mobilisation sur le CPE, donc je me suis rendu compte qu'à la fois effectivement il y avait une nécessité de dénonciation d'un certain nombre de réformes, de dénonciation d'un certain nombre de choses qui pouvaient se passer pour les jeunes ou pour toute autre catégorie, mais en même temps qu'il fallait s'atteler à un moment donné aussi à apporter un projet, une alternative. Et donc du coup je suis orienté vers la politique, et de mes opinions, de tout ce que j'avais pu comprendre, tous les bilans que j'avais pu tirer de tout ça, j'adhère au Parti communiste français.
Ouais. Très bien. Et quelle réaction vous récoltez, Margarida Santos Valerio et Valentin Broussard-Dusson,
Brouillard-Dusson,
quand vous faites votre coming out communiste?
Est-ce qu'il y a encore un regard? Est-ce qu'il y a un regard sur cette théorie-là aujourd'hui, un regard particulier?
Oui, alors d'un côté, il y a ceux qui ont déjà conscience de l'existence de classe sociale, parce que quand même, cette conscience n'est pas construite dans la majorité des gens, et c'est pour ça, du coup, que nous ne sommes pas dans un État communiste, parce que c'était le cas, nous le saurions. Mais donc d'un côté, il y a ceux qui n'ont pas conscience de l'existence des classes, du coup, qui comprennent. Donc il y a un travail pédagogique à faire pour leur démontrer. De l'autre côté, il y a ceux qui en ont conscience et qui trouvent ça bien. Voilà. C'est la réaction qu'on voit.
L'époque du stalinisme ou le communisme, comme on peut en entendre parler en Chine ou à Cuba, ça vous fait pas une mauvaise pub?
Excusez-moi.
Valentin Brouillard-Dusson.
Oui. Moi déjà pour la question précédente, moi je pense que on peut être surpris que finalement toutes ces questions-là, comme type la Chine, type l'Union soviétique et les bilans qu'on a pu en tirer de ce genre d'expérience, c'est pas quelque chose qui revient de façon hyper récurrente au final parmi les gens de notre génération. Peut-être on retrouve ça plus dans les générations précédentes. La particularité maintenant des jeunes qu'on peut croiser à la fac et de ça, c'est des gens qui sont nés après 1989, après la chute du mur. Et effectivement, je pense que entre guillemets, la roue de l'histoire tourne et les gens de notre génération s'éloignent de ça. Sur le stalinisme, bon, Staline est mort en 1953, le 5 mars 1953. Je pense que oui, il y a cette expérience soviétique, il y a cette expérience en Chine, il y a l'expérience de la Corée du Nord encore qui est un petit peu différente. Mais je pense que le Parti communiste français, il a su démontrer dans son histoire à des moments qu'il a, surtout pour beaucoup, que ce soit les combats pour la résistance, que ce soit les combats pour les congés payés ou la semaine des 40 heures en 1936, ou que ce soit plus récemment pour le non à la Constitution européenne, pour tout ça de combats qu'on peut mener, qu'on est un parti de lutte pour l'émancipation, qu'on est un parti qui prône le fait que les gens se réapproprient. C'est ça l'idée du communisme, c'est voilà, arriver à une société sans classe, mais par la réappropriation, par la socialisation, par le fait qu'à un moment donné, les gens ils prennent en main leurs propres affaires, ils prennent en main leur propre destin à tous les échelons de la société. Et que ça, évidemment, c'est un discours qui est très très éloigné des bilans qu'on peut faire de l'Union soviétique. Quoi. Donc, je pense que...
Jean-Jacques Thur, est-ce qu'on peut citer une société communiste qui n'est pas basculée dans le totalitarisme ?
Des sociétés dans l'Antiquité, etc., avant que parce que maintenant on parle de communisme, c'est le marxisme.
Oui.
Mais il y avait des petites sociétés pas nombreuses qui vivaient, qui mettaient tout en commun, qui vivaient peut-être très bien, mais parce qu'elles étaient coupées du reste du monde, finalement. Mais moi, je voudrais poser une question à nos intervenants. Non, mais justement, parce que chaque fois qu'on parle du communisme et du marxisme, on vous jette à la figure, à vous communistes, oui, mais regardez, il y a eu Staline, il y a Mao, il y a Kim Il-sung, il y a Fidel Castro. Bon. Mais, vous disiez tout à l'heure, moi j'ai adhéré au Parti communiste français parce que je trouve que le Parti communiste français, etc. Si vous prenez l'histoire du Parti communiste français, dans un premier temps, il y a la scission en 1920, et il n'arrive au pouvoir, mais il ne fait que soutenir le gouvernement sans y participer, avec le Front populaire en 1936. Mais il est du côté de la majorité, sans être dans la majorité pendant quelques mois. Et puis, on sait ce qui se passe, et finalement, Front populaire disparaît avant la guerre. Et à la fin de la guerre, par le rôle évident que les communistes, comme d'autres, mais eux aussi, ont joué pendant la guerre, ils deviennent le premier parti de France avec 25% régulièrement pendant pratiquement toute la 4e République. Mais aussi, ils ont eu le défaut qu'ont beaucoup de partis, c'est-à-dire on a un slogan qui marche bien et ils ont gardé pendant 30 ans le parti des 75 000 fusillés. Hein ? Bon. La 5e République arrive, De Gaulle prend le pouvoir, les communistes vont rester en dehors du gouvernement et de la majorité jusqu'en 81. Mais entre-temps, en 74 par exemple, lorsque Mitterrand avait déjà une première chance d'être élu, tout le monde sait que, par l'intermédiaire des instances du Parti communiste français, le Parti communiste soviétique dirigé à l'époque par Brejnev a joué en sous-main pour que Giscard soit élu plutôt que Mitterrand. De la même façon qu'on sait très bien qu'en 81, Chirac a aidé Mitterrand à être élu contre Giscard. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Parti communiste français, d'une part, il a fait lui aussi des erreurs, d'autre part, alors qu'il faisait 25% il y a 60 ans, il ne fait plus que quelques pourcents maintenant, ça dépend des différentes élections, et beaucoup de gens maintenant, à commencer par le fameux parti de gauche de Mélenchon, se prétendent plus à gauche que le Parti communiste, qui apparaît aux yeux de certains même de gauche comme un reliquat.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Si je fais extrêmement court, parce que oui. on va nous tirer les oreilles. Moi, ce que je peux vous dire premièrement, c'est qu'effectivement, moi, je ne me suis pas engagé au Parti communiste par satisfaction des comportements de Brejnev dans les années 70, vous imaginez bien. Moi, pourquoi je fais le choix du Parti communiste français aujourd'hui, c'est parce que je pense que pour changer les choses, il faut rassembler. Et qu'à la fois dans son comportement, et notamment parce que ce qu'on a pu voir, par exemple, sur le traité de la Constitution européenne, où c'est le Parti communiste qui a été l'acteur du rassemblement de toute la gauche du non à la Constitution, ou que ça soit même en son sein, parce que le Parti communiste qui a des difficultés à apparaître médiatiquement, à apparaître publiquement, à avoir des relais dans les différentes chaînes de télévision, ça reste quand même le troisième parti de France en nombre d'adhérents, en nombre de militants, en nombre d'élus, en termes d'implantation. Le Parti communiste, c'est 10 000 élus sur tout le territoire. C'est un groupe de députés à l'Assemblée nationale de 15 députés. Ça reste quand même un parti qui, aujourd'hui, est beaucoup plus vital, connaît beaucoup plus une grande vitalité que ce qu'on peut croire de premier abord dans votre discours.
Alors, on va marquer une pause musicale, même si j'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Tant pis, avec Ponyhawks, Down on Serpent Street.
While I'm walking down the street, and the street looks very crazy, and there's a girl I'd like to meet, and she's not really living here. She takes back to Catherine, the one from the Medicis. She drinks liquor laced with poison since she went through all the six. There's a gnomeman down the street, and here she looks very crazy. He tries hard to let it go, though his mother surely knows. Sisterhood of freaks. And here comes the little boy who won't ask for anything, but will try to steal the soul with his screeching violin. There's an orange down the street, and she sure looks very crazy. She tries harder in my mind with her black and rotten teeth. She takes back to this cold weekend, this girl you met up with. She was just a minor demon, then she went up on the list.
The street will die one day and fade away. The street will die one day and fade away.
Well, the street is very long, and I can't reach out its limits. Though I'm waiting here for you at the end of some streets. And it'll never be on time, there's something else on your mind. And I'm not down on my luck, it's just that you don't give a fuck.
The street will die one day and fade away. The street will die one day.
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers, et le jeudi dans Le Sous-Marin, c'est économie. Hé, Rémi !
Ah non ! Hé, Rémi ! Aujourd'hui, les enfants en parlent de ça, du revenu minimum d'insertion, créé en 1988 par Michel Rocard, et devenu en 2009 le RSA, Revenu de Solidarité Active. Tiffaine ne manquera alors pas de demander...
Mais qu'est-ce que le RSA, Rémi ?
Wow, je ne m'y attendais pas ! C'est une prestation sociale de l'argent versé directement par l'État aux personnes dépourvues de toute ressource matérielle pour vivre, en échange d'une recherche active de travail. Actuellement, 2 millions de personnes le touchent pour un coût total de 10 millions d'euros par an. Il y a deux types de RSA en fait. Le RSA socle, qui est actuellement de 500 euros par mois pour une personne seule, et le RSA activité, que l'on verse à des personnes disposant d'un emploi à temps partiel, dont elles tirent des revenus trop faibles pour vivre. Le RSA va alors compléter le salaire afin qu'en acceptant ses heures, l'individu ne connaisse pas une baisse des revenus. Autrefois, lorsqu'on retrouvait un travail, même à temps partiel et très peu payé, on perdait ses droits à percevoir le RMI. Donc on pouvait parfois gagner moins en étant dans l'emploi qu'en étant au chômage. Du coup, ça incite à retrouver un emploi. Vous n'avez plus de raison de vous plaindre. Allez, au travail. Oui, mais s'il n'y a pas de poste à pourvoir en face, on se retrouve rapidement dans une impasse. Deux alexandrins, c'est cadeau. Bah oui, on force les gens à trouver un boulot. Mais c'est la crise, les cocos. Il y a moins d'emplois disponibles. Bien souvent, les chômeurs veulent retrouver un emploi, car c'est un gage d'un peu plus de stabilité, de revenus, de statut social, de rencontres, etc., etc. Mais ce n'est pas vraiment le discours ambiant. Celui-ci, c'est plutôt la France qui triche. Ces fraudeurs qui ruinent la France. Le cancer de la Sistana. Et on a envie de pleurer face à toutes ces affirmations. Car il est bien plus facile de viser les pauvres, que les riches qui planquent un tiers de leur argent en Suisse. En économie, les chiffres, c'est chiant, mais c'est très utile, croyez-moi. Je ne vous demanderai de n'en retenir que deux. 60 millions. Ça, c'est la fraude estimée au RSA par an. 60 millions. Et 5,7 milliards, ça, c'est ce qui est économisé par an parce qu'une grande part des personnes qui ont le droit de toucher le RSA ne le perçoivent pas, parce qu'elles ne savent pas ou ne veulent pas. Démarches administratives compliquées et honte. Faut assumer d'être une métastase de la Sistana quand même. Donc 5,7 milliards d'euros qui devraient et qui ne sont pas perçus par les ayants droit au RSA. Et là, on compare. Si on éradiquait la fraude sociale et que les personnes qui ont droit réclamaient le RSA, ça ferait un trou de plus de 5 milliards dans les caisses. Bon, vous voyez, 60 millions, 5 milliards, ça c'est des petites sommes. Car la vraie fraude, faut pas la chercher dans des petits bleds paumés de Maine-et-Loire, mais plutôt à Zurich, Luxembourg, Genève. Là-bas, il y a 60 milliards à chercher. 60 milliards en évasion et en fraude fiscale. Bonjour Amazon, Google, t'es là aussi? Oh, je suis venu avec Liliane et Jérôme. Bah tu sais, Liliane Bettencourt et Jérôme Cahuzac, mes grands copains. On a tellement d'argent qu'on sait plus quoi en foutre. Du coup, on joue à cache-cache avec les inspecteurs du fisc. C'est très marrant, ils nous trouvent jamais. Bon, je te laisse, je suis attendu à la fondation que j'ai créée pour me donner bonne conscience. Salut.
Il faut simplement préciser que concernant cette guerre de classe, Marx a souvent insisté sur le fait que la classe ouvrière n'était pas toujours, ni même principalement, ni même le plus souvent à l'initiative de cette guerre, mais que c'était la classe d'en face qui la menait avec une constance, une continuité, une ténacité impitoyable. Et nous citons dans l'article auquel vous avez fait référence la déclaration d'un milliardaire américain, Warren Buffett, qui dit justement qu'il y a une guerre entre les classes, entre les riches et les pauvres, et que c'est nous les riches qui sommes en train précisément de la mener et de la gagner. Donc vous voyez qu'à cet égard, il n'y a rien de nouveau.
Vous êtes en train d'écouter Le Sous-marin sur Radio Campus Angers. Et là, vous venez d'entendre Pierre Dardot dans l'émission Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture en 2012 à propos d'un article co-signé avec Christian Laval sur Karl Marx. Et on est en pleine discussion autour du marxisme et de l'actualité du marxisme avec autour de la table Margarida Santos Valerio de l'Union des étudiants communistes à Angers, Valentin Brouillard-Dusson, ancien responsable départemental des jeunes communistes, et Jean-Jacques Thur, professeur agrégé d'histoire et de géographie à la retraite, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors, est-ce que vous auriez une réaction, Margarida Santos Valerio? Je vous voyais sourire et acquiescer pendant le petit son sur Warren Buffett, sur cette phrase de Warren Buffett selon laquelle la lutte des classes est toujours d'actualité, mais que les riches l'ont gagnée.
Oui, parce que c'est une citation que j'utilise absolument à chaque fois que je démontre à quelqu'un que la lutte des classes existe, en fait.
Donc c'est une phrase que vous, oui, c'est une phrase que je prenais comme exemple.
Que je connaissais ou que je prends toujours comme exemple.
Valentin Brouillard-Dusson, sur cette citation de Warren Buffett.
Bah, elle ne me surprend pas. Je pense que ça montre aussi qu'il y a aujourd'hui des gens, des géants financiers, des gens qui ont énormément d'argent et qui ne respectent rien, parce que à la fois cette phrase là elle démontre une chose, moi, que je pense effectivement, c'est qu'aujourd'hui la lutte des classes elle existe encore, même si évidemment elle s'est modifiée. Moi je rejoins ce que disait Monsieur Thur tout à l'heure sur le fait que les mots qu'on emploie, type voilà prolétariat, bourgeoisie et tout ça, sont des termes du 19e siècle et de fait, on peut pas les retranscrire réellement aujourd'hui parce que la société s'est complexifiée, parce qu'il y a une accumulation de capital, parce que
voilà. Jean-Jacques Thur parlait de classe moyenne, par exemple.
Moi, je pense que Monsieur Turc, de cet aspect-là, sur la question de la classe moyenne, il fait une confusion entre la condition sociale et le rapport à la production. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui, effectivement, dans le capitalisme, aujourd'hui, ont su, et d'ailleurs beaucoup plus à l'époque des Trente Glorieuses et de l'État, la grande époque de l'État-providence, qui ont su, effectivement, vendre leur force de travail contre un salaire, mais un salaire qui était de meilleure qualité. Par contre, il y a quelque chose qui ne change pas, effectivement. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Je suis d'accord avec Marx sur cette question-là, c'est la base, hein, comme disait le monsieur tout à l'heure. C'est le fait que, malgré tout, la société reste divisée entre, d'un côté, ceux qui vivent de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils sont, et d'un autre côté, des gens qui vivent de ce qu'ils font. Et que ces deux catégories de population qui après se déclinent énormément. La classe moyenne, il y a une partie de la classe moyenne qui est dans ceux qu'ils sont, ceux qui, voilà, il y a des patrons de PME qui vivent avec 2-3 000 euros par mois, ce qui est moins qu'un ancien chercheur en fin de carrière, donc qui lui vend sa force de travail. Donc évidemment, la condition sociale s'est complexifiée, mais malgré tout, le fondement de cet élément-là, malgré tout, ça reste que la différence entre ces deux classes sociales, donc ceux qu'ils ont et ceux qui vivent de ce qu'ils ont et ceux qui vivent de ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des intérêts antagoniques. Ça c'est encore aujourd'hui quelque chose d'actualité.
Si Karl Marx était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait de notre société, par exemple?
Bah, je pense qu'il serait relativement fier d'avoir prévu pas mal de trucs. Et
comme quoi, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'il a prévu, Karl Marx?
Bah, il a prévu le fait que, par exemple, on en rigolait en venant sur la route. J'ai raconté une anecdote à Margarida où Marx avait décidé d'installer le siège de la Deuxième Internationale à New York, par exemple, parce qu'il avait conscience, il avait compris que de toute façon, voilà, les États-Unis allaient jouer, devenir la première puissance économique du monde, allaient devenir jouer un rôle de plus en plus important économiquement, alors qu'on est milieu de tiers du 19e siècle, et où ces éléments-là sont pas encore connus par les contemporains de Marx. Après, Marx s'est trompé sur tout un tas de choses aussi, hein, sur certaines analyses qu'il a pu faire, sur par exemple le fait qu'il pensait que le capitalisme, vu qu'il était global, il finirait par se développer finalement de la même façon dans tous les pays du monde, et ça, voilà, l'histoire lui a donné tort. Donc je pense qu'il garderait un point de vue d'analyse sur ces questions-là, il continuerait à bouffer au crochet d'Engels et à réfléchir au monde d'aujourd'hui.
Jean-Jacques Thur, est-ce qu'on peut encore trouver des exemples de lutte des classes aujourd'hui?
Oui, certainement, mais à condition, comme on disait tout à l'heure, de distinguer de ce qu'il vient de dire à l'instant. C'est vrai, tout dépend du si l'on fait et on reçoit, hein, le producteur, est-ce qu'il profite des fruits de son travail ou est-ce qu'on se contente de l'assistanat? Parce qu'on dit qu'il faut lutter, il faut prendre conscience de l'aliénation, etc. Mais le drame dans nos sociétés maintenant, qu'elle soit capitaliste comme chez nous, mais je pense que dans les sociétés qui est héritée du marxisme, c'est pareil, c'est que la plupart des gens tendent les bras et attendent qu'on les prenne en charge. Hein, et c'est maman bobo. Hein. Et dans certaines sociétés, on n'a pas intérêt à dévier de ce que veut le chef. Donc on a cette impression en Occident que toutes ces sociétés héritées du marxisme qui perdurent encore, ce sont des sociétés totalitaires. Alors l'exemple caricatural, c'est la Corée du Nord, bien sûr. Hein, mais même en Chine, où ils ont su parfaitement adapter le capitalisme à la sauce chinoise, si on peut dire, c'est un pays qui est devenu ultra-capitaliste sur le plan économique et qui est resté un pays communiste avec le parti unique, etc. Et avec la cooptation, enfin c'est le même système qu'il y avait en URSS avant. La cooptation, c'est pas du tout des élections libres pour choisir le nouveau dirigeant.
Margarida Santos Valerio, je vous pose cette question vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver des exemples de lutte des classes aujourd'hui?
Concrètement, oui. L'exemple qui est d'ailleurs d'actualité, c'est par exemple en ce moment le pacte de responsabilité négocié entre Hollande et le MEDEF. Ça, c'est clairement un exemple. Hollande qui fait cadeau de 30 milliards de cotisations sociales au patronat. Aussi, par exemple, le MEDEF qui négocie actuellement la suppression de plusieurs annexes dans le Code du travail pour réduire les droits au chômage des intermittents du spectacle et des intérimaires. En ce moment, il y a beaucoup de luttes CGT menées à propos de ça à Paris. C'est l'exemple très concret de lutte de classe actuellement.
Rémi ? Oui, mais justement, on voit aujourd'hui un développement de l'individualisme dans nos sociétés, un syndicalisme qui périclite, et même les syndicats qui se développent le plus aujourd'hui, c'est surtout les syndicats réformistes, comme la CFDT par exemple. Donc justement, est-ce qu'il y a toujours une conscience de classe qui peut exister malgré justement ce développement de l'individualisme?
La conscience de classe, effectivement, elle existe moins, parce que comme elle existe moins dans la majorité de la population parce qu'effectivement la société elle s'est complexifiée, mais les classes sociales et la lutte des classes existent toujours.
Valentin Brouillard du son.
Moi, je suis assez sceptique avec ce mythe comme quoi, finalement, au 19e siècle, les gens auraient conscience, et la conscience de classe aurait été exceptionnelle, et du coup, aurait été le terreau favorable au marxisme, au communisme, et qui finalement, au bout du 20e siècle, avec la fin des Trente Glorieuses, l'État-providence, la conscience de classe aurait disparu. Moi, je pense pas que ça soit un schéma de ce type-là. Je pense pas que la lutte des classes, elle existe parce que les gens en ont conscience. Je pense qu'il y a beaucoup d'esclaves sous l'Antiquité qui n'avaient même pas conscience d'être esclaves et qui pensaient que c'était normal. Et je pense que l'aliénation, elle existe même si tu n'en as pas conscience. Et je pense que finalement, aujourd'hui, la conscience de classe, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on peut penser. Par contre, la conscience, que ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le rapport de production et tout ça, évidemment, aujourd'hui, cette conscience, elle est très faible parce qu'y compris, elle est de moins en moins enseignée, elle est de moins en moins diffusée, que les médias traditionnels ont beaucoup de mal à transmettre ce qu'on raconte. Mais je pense que les gens ont conscience, malgré tout, dans leur entreprise, qu'à un moment donné, il y a une part du taf qu'ils font qui va pas à eux, quoi. Moi, je travaille dans la pizza et je prends l'exemple de mes collègues, je prends une part de pizza. Quand tu produis une pizza, tu la coupes en 8. Et ben il y a une part qui va à toi, il y a deux parts qui vont à la banque, il y a une part qui vont pour payer tout ce qui est matières premières et de ça, et il y a une part qui va à l'employeur. Et en fait, là, t'es dans la situation, et ça, je pense que il y a des prises de conscience sur ce genre d'éléments, sur le fait qu'effectivement, quand quelqu'un par exemple dit je suis sous-payé, je suis pas assez payé, j'ai besoin de plus de conditions, typiquement, il peut être dans une conscience de classe, même si c'est une proto-conscience quelque part, mais.
Mais est-ce que vous considérez que la crise de 2008, par exemple, pourrait donner raison à Marx aujourd'hui ?
Ah bah, la crise de 2008, elle donne raison à Marx, de toute façon. Après, ce qui est évident, c'est que moi, par exemple, j'ai commencé à militer un petit peu avant 2008. Moi, je me rappelle, avant 2008, j'ai l'impression que, par exemple, le mot capitalisme, il avait quasiment disparu de nos discours. Que ce soit pas uniquement chez les communistes, hein, dans les médias.
Il est réapparu, là ?
Oui, on l'utilise, le mot capitalisme, régulièrement, depuis 2008. Hein, on parle de crise du capitalisme, crise du système capitaliste, machin, c'est des éléments qu'on entend. Hein, je parle pas que des communistes, hein, je parle dans la bouche de tout le monde. Et du coup, je pense que la crise de 2008, elle a créé un choc psychologique. Après, il faut faire attention, parce que l'histoire, elle est complexe. Les gens, c'est pas parce qu'il y a eu une crise du système que les gens, ils ont de la démonstration sous leurs yeux que le système, il fonctionne plus et qu'il est plus viable. Je pense qu'il peut y avoir aussi de la résignation. Je pense que quand les conditions de vie des gens se dégradent, c'est pas ça qui les pousse à s'émanciper. C'est pas ça qui les pousse à penser qu'ils vont pouvoir prendre en main les choses. Et il n'y a pas de schéma typique entre une condition mauvaise, financière, sociale, qui mènerait à la conscience de classe et plutôt une conscience qui s'améliorerait, la classe moyenne, ça, qui aurait éloigné les gens de la conscience de classe. Je pense qu'il n'y a pas de schéma comme ça rétabli.
Jean-Jacques Tur.
Moi, je crois que le drame du marxisme, si on peut dire, c'est que ceux qui s'en sont réclamés, à commencer par Lénine, ont fait un parti élite. C'était le grand apport de Lénine au marxisme, c'est ça. On va créer un parti élite pour que des intellectuels puissent montrer au prolétariat comment il faut se révolter, etc. Et le résultat, c'est que dans un premier temps, la dictature du prolétariat est devenue la dictature du parti qui prétend représenter le prolétariat, et dans un deuxième temps, avec le stalinisme, c'est devenu la dictature du type qui est à la tête du parti qui prétend représenter le prolétariat. Donc, quand vous dites, est-ce que Marx aujourd'hui pourrait faire quelque chose, primo, on n'en sait rien, on n'est jamais dans la tête des gens, mais je pense que c'est pas de Marx qu'on a besoin, c'est d'un nouveau réformateur, mais qui tiendrait compte de toutes les évolutions faites depuis plus d'un siècle et demi maintenant, parce que, comme dit le proverbe, c'est pas dans les vieilles outres qu'on fait du vin nouveau. Hein. Donc s'il faut vraiment modifier la situation, Marx disait lui-même que l'histoire, c'est à la fois l'évolution et la révolution. Alors je crois que quand on parle du marxisme et du communisme en général, hein, et de tous les mouvements dits révolutionnaires, eh ben, on pense à la révolution, on pense au chambardement, etc. Alors que révolution, au départ, c'est cyclique. Hein, et pas de l'évolution. Donc il faut tenir compte des courants de fond, hein, et puis peut-être qu'on trouvera la fameuse troisième voie qu'on a cherchée à une époque entre le capitalisme et le communisme. Mais pour envisager ça, il faut d'une part avoir ce que vous appelez la conscience de classe, mais d'autre part, il faut admettre aussi que les autres puissent avoir un sentiment différent et pas vouloir la même chose, etc.
Donc pour vous, la théorie marxiste, elle est un peu périmée aujourd'hui. Margarida Santos Valerio, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Jacques Tur ?
Ce que Marx apporte aujourd'hui dans toute la philosophie qu'il a construite, c'est une grille d'analyse scientifique, en fait. Donc ce qu'il penserait aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas se mettre dans sa tête, on ne peut pas savoir, mais par les enseignements qu'il apporte, on peut comprendre comment les choses sont arrivées là et aussi amener... Amener à comment transformer la société, en fait. Et la philosophie qu'il a apportée aide à comprendre comment faire évoluer les choses.
Mais n'oubliez pas que Marx a été essentiellement et avant tout un penseur. Et ça n'a pas été un homme d'action, ça n'a pas été quelqu'un qui a essayé de prendre le pouvoir comme Lénine, Mao ou d'autres. Donc c'est ça son problème. Il ne s'est pas coltiné le réel. On ne sait pas Marx... homme politique ou chef d'État, ce que ça aurait donné.
Valentin Brouillard-Dusson, vous allez avoir le mot de la fin sur ce que vient de dire Jean-Jacques Thur sur le fait que la théorie marxiste est peut-être périmée et qu'elle ne serait pas applicable aujourd'hui.
Moi, je pense que la théorie marxiste, elle n'a jamais été aussi autant d'actualité. Je répondrai à M. Thur sur ce qu'il disait tout à l'heure sur le parti élite et sur ce genre de choses. Moi, je pense que ce qu'il faut faire attention entre une analyse politique et une analyse historique, ces éléments-là, ils se comprennent très bien sur comment on développe un parti politique qui est censé prendre le pouvoir dans une Russie tsariste de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, ce qui aussi suscite et génère des formes d'organisation qui aujourd'hui ne sont pas reprises. Et je pense que là, ce genre d'analyse appartient plus à l'histoire qu'à la politique. Par contre, sur l'actualité du marxisme aujourd'hui, moi je pense que par exemple le succès de la semaine de la pensée marxiste à Angers, qui est organisée pour la première fois depuis 20 ans, le démontre. Je pense que premièrement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, contrairement il y a une dizaine d'années, aujourd'hui le Parti communiste, en effectif, en nombre d'adhérents, en poids politique et tout ça, il n'est pas en diminution, mais il est plutôt dans une situation de reprise, entre guillemets, si on devait reprendre un terme qu'on entend à toutes les sauces ces derniers temps. Et le deuxième élément, c'est que malgré tout, on reste toujours dans une situation où les choses que Marx décrivait à l'époque n'ont pas été résolues. Et le fait que malgré tout, aujourd'hui, la plupart de ce qu'on fait dans notre production, quand on va travailler, quand on va exercer un emploi, la plupart du produit de notre travail, il ne nous est pas rétribué. Ce qui crée à la fois des contradictions économiques, mais à la fois aussi des réalités de vie différentes et de ça, qui crée la misère sociale, qui crée les exclusions et de ça. Aujourd'hui, cette question-là, elle est loin d'être résolue. Et aujourd'hui, on est dans une société où il y a de plus en plus de miséreux, où il y a de plus de gens qui ont du mal, même avec leur travail, à s'en sortir. Et si ça donne pas raison à Marx, alors bon.
Merci Valentin Brouillard-Dusson, Margarida Santos-Valerio et Jean-Jacques Thur d'avoir participé à ce sous-marin. Tout de suite, on écoute.
C'est nous qui vous remercions.
Vivette, merci. Ce goodbye parti.
He invites us for a drink, and of course
Jeudi et c'est l'heure de retrouver Aminata et son périscope. Aminata épluche les médias chaque semaine. Comment transformer de l'or en plomb, comme l'a dit la journaliste des Échos Cécile Cordunet. Voilà ce qu'a réussi à faire le gouvernement. C'est une semaine qui a commencé en fanfare pour le PS. Aminata, une des quotidiens nationaux. Gros titre, photo, pleine page.
Un récapitulatif des faits s'impose. Christiane Taubira a-t-elle était-elle au courant de la mise sur écoute de l'ancien président de la République ? Après avoir assuré avec conviction qu'elle l'avait appris par les révélations du journal Le Monde, la garde des Sceaux a été pointée du doigt puis décrédibilisée par Jean-Marc Ayrault dès le lendemain. Ce couac ministériel soulève un manque de communication au sommet de l'État. Trop tard, la presse était déjà lâchée. Dans un premier temps, les journaux condamnent durement le mensonge de la garde des Sceaux. Le quotidien de droite Le Figaro s'implique, extrapole volontiers la situation. En une du Figaro de jeudi, il y a Jean-Marc Ayrault, Christiane Taubira et puis Manuel Valls. Visage angoissé, coincé avec ce titre accablant, écoute le mensonge de l'État. Le Figaro encore avec l'édito d'Alexis Brézet. La France, vraiment ce pays où le mensonge comme le tabac et les allumettes est devenu un monopole d'État. On a du mal à s'y résigner. Le Figaro toujours, dans quel autre pays pourrait-on mentir aussi éhontément ? L'encre du Figaro va encore plus loin et seul lui demande un remaniement du gouvernement. Ce nouveau couac souligne les faiblesses du dispositif et conforte l'hypothèse d'un remaniement. Guillaume Tabar titre son contrepoint « Une crédibilité en ruine au sommet de l'État ». Il détaille ensuite « La bourde de Christiane Taubira ressemble au couac de trop, au couac final d'un gouvernement qui vient d'apporter l'argument ultime de l'urgence d'un remaniement ». Les maladresses de la garde des Sceaux servent la droite, ce qui n'a pas échappé au quotidien Le Monde. Comme il nous le rappelle, empêtrée dans une avalanche d'affaires, la droite a trouvé une occasion de sortir de cette séquence. Le quotidien renchérit. L'équipe Sarkozy a donc réussi à inverser la charge des soupçons et à faire oublier pour l'heure ce qui pesait sur elle. Belle performance. Objectif des grognards de la Sarkozy, faire passer leur champion pour un martyr, qui serait victime de l'acharnement du pouvoir de gauche. Une citation d'Alexandre Lemarié pour Le Monde. Encore une fois, le quotidien suit cette affaire de près depuis ses propres révélations. Une aubaine pour l'UMP, titre aujourd'hui en France dans son édition du Dimanche 16. Maurice Ulrich, dans l'UMA, pousse un mini coup de gueule. Voilà l'occasion pour l'UMP de se présenter de nouveau en robe de lin blanc, candide et innocente. C'est trop facile. Dans les jours qui suivent, quelques journaux remarquent l'absence de Manuel Valls, qui dit ne pas avoir été mis au courant des écoutes. Manuel Valls, l'homme qui n'en savait rien. Titre Le Monde du samedi 15. Le déni, une stratégie à haut risque pour Valls. Titre Le Figaro qui dénonce la tactique risquée du ministre de l'Intérieur, qui passe, selon le quotidien de droite, de l'homme le mieux informé de France à la dernière roue du carrosse judiciaire. À l'occasion, Le Monde Magazine publie un dossier concernant Christiane Taubira. Le journal aborde son combat pour faire passer la loi pour tous. Sa sécurité aujourd'hui, un symbole pour certains, avec ce titre. 50% admiré, 50% détesté, l'équation Taubira. Le Midi Libre, lui, s'est positionné et admire la ministre. Jean-Michel Servan, pour le quotidien régional, nous dit que l'on soit d'accord avec elle ou pas, il faut admettre, cette femme-là a une sacrée force de caractère, l'amour de la République bien chevillé au corps pour résister. Dernière info hier révélée par Mediapart qui pourrait faire revenir les choses au fond de l'affaire. L'ancien président et son avocat se disent prêts à récompenser le haut magistrat qui les renseigne. Libé remet tout de suite les pendules à l'heure. Il se moque de la justice, des juges et du droit. L'UMA fait le même constat. Maintenant c'est fini, retour aux choses sérieuses. Les mots divulgués à la France entière donnent le vertige et montrent à quel point Nicolas Sarkozy, dans l'exercice de la fonction suprême, se moquait éperdument de la justice, des juges et du droit. Dur dur pour celui qui voulait prendre sa revanche en 2017. Le fameux effet boomerang lui revient en pleine figure.
Merci Aminata, on te retrouve jeudi prochain pour un nouveau Périscope. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine présentée par Marin, notre stagiaire cette semaine. Salut Marin.
Salut.
Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir?
Alors aujourd'hui au festival Les Trois Coups sera joué à l'amphithéâtre Bazin de la Cato 6 personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello et mis en scène par Héloïse Calvar. Ça commence à 20h. À 20h15 pour le Printemps des Poètes sera projeté au 400 coups Piano Forest de Masayuki Kojima. Au centre Jean Villard va être donné Le Joueur, création de Carlo Goldoni et mis en scène par Christophe Dufay, et c'est à 20h30. Si ça vous intéresse, David Walter, un musicien de classique, joue au Grand Théâtre. Le tarif est de 3 à 5 euros. Si vous aimez Faux, vous avez de la chance. Le groupe de renommée passe à Angers au Shabada ce soir, mais vous n'aurez pas de chance si vous n'avez pas réservé, le concert est complet. Le Jacaré reçoit deux groupes de reggae ce soir, Speed Art et Broken Stick, c'est à 21h. Au programme du Terok Coco ce soir, Cutie's Gym, un groupe de rock, et Who Are You, un groupe de folk qui passe à 21h30. Et donc je conclue en vous disant, comme c'était le sujet du sous-marin ce soir, le capital de Karl Marx est toujours joué au quai à 20h30.
Merci beaucoup Marin, voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou en rediffusion demain dès 13h sur nos ondes. Les gens boivent, c'est la fête, c'est le sous-marin. On vous laisse avec la bulle sonore. Marin a sélectionné un extrait de l'émission Postum animée tous les mardis soirs par Marc et Serge sur le 103 FM. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. On se retrouve demain 19h. Allez, bisous.
Marc. Marc. Marc, où es-tu? Marc.
Serge.
Marc.
Serge.
Marc.
Est-ce que ça va?
Oui, ça va, et toi?
Attends deux secondes.
Qu'est-ce qui se passe? Ton casque ne marche pas, peut-être?
Vas-y, parle pour voir.
Oui, je te parle.
Ah, c'est...
Tu m'entends?
En fait, j'ai pas mal d'écho, là.
Ouais.
Je dois être dans une grotte, je pense.
Sûrement.
Ou alors, un autre souci technique. Mais rien de grave.
C'était une émission, Marc, je t'avais pas prévenu, une émission sur l'humour, les blagues, et ça commence comme ça, je te fais une super blague, en fait, tu n'apparais pas à l'émission ce soir. Vas-y, parle pour voir là, si t'es là. Bon, eh bien, je vais faire l'émission tout seul. En même temps, ça faisait un bout de temps que j'en ai un peu marre de mon collègue, donc ça tombe bien.
D'accord.
Je te dis au revoir. Ah, mince, ça y est, il est revenu.
Là, tu m'entends là?
Bah, j'en ai bien peur.
Eh ben, c'est une très très mauvaise nouvelle.
Très mauvaise nouvelle, en effet. Donc, bah, est-ce que t'as passé une bonne semaine au moins?
J'ai passé une semaine, mais délicieuse.
Ouais, j'en ai entendu parler un petit peu.
Ouais. Délicieuse, ouais.
Des petits aléas de la vie, des trucs sympas, des anecdotes farfelues en tout genre.
Ouais, ouais, moi qui pensais enfin clôturer cette fameuse vasectomie.
Non, c'est... Non.
Eh ben,
toujours pas.
Nouvel échec.
C'est reparti pour une session d'hôpital avec toutes les activités gratuites.
Ils sont visiblement
scanners,
encore trompés de tuyaux, donc.
C'est reparti pour un tour, quoi.
Alors, par contre, j'ai réglé un autre souci par la même occasion.
Dis-moi tout.
Plus de gastro. Plus de gastro.
Ça, c'est une bonne nouvelle, quoi.
We me yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.